Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
Chers téléspectateurs, chers amis, nous vous saluons chaleureusement pour cette émission intitulée « On nous a caché l'amour de Jésus pour les animaux ». Ce titre amène d'emblée deux questions. La première, Jésus aimait-il les animaux? Peut-on dire qu'il avait de l'amour pour les animaux? Ceux qui répondront par l'affirmative se demanderont peut-être s'il existe des traces écrites de cet amour. Tous ceux qui croient en cet amour s'opposeront également cette deuxième question. Qui nous a caché l'amour de Jésus pour les animaux? Ces deux questions sont le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des théologiens. Nous ne croyons pas qu'il est possible d'étudier Jésus. Nous voyons dans les animaux des créatures de Dieu et nous les respectons et traitons comme telles. En tant que successeurs de Jésus de Nazareth, nous voulons rétablir la vérité sur son enseignement et sa vie, aujourd'hui tout particulièrement sur sa relation aux animaux, nos frères et sœurs de la création. Avant de nous consacrer plus particulièrement à cet amour de Jésus pour les animaux, nous souhaiterions montrer très brièvement quelles conséquences désastreuses a eu et continue d'avoir le déni des droits à la vie et des droits de la personnalité généralement subis par les animaux. La valeur de ces derniers est uniquement évaluée selon leur degré d'utilité pour les hommes.
On maltraite et abat brutalement la plupart des animaux en les considérant comme des fournisseurs de viande. Saviez-vous que sur la Terre, il y a deux fois plus d'animaux dits d'abattoir que d'êtres humains? La plupart de ces pitoyables créatures sont victimes de cruauté toute leur vie durant, végétant dans les horribles conditions de l'élevage intensif. Sur la Terre, chaque année, plus de 50 millions d'animaux dits de ferme sont abattus par l'homme pour leur chair, sans compter les poissons et autres habitants des océans.
Chaque année, des millions d'animaux sont martyrisés et tués dans des laboratoires de vivisection.
Renards, chats, visons et autres animaux dits à fourrure sont eux aussi martyrisés une vie durant avant de se voir arracher la peau du corps juste parce que l'être humain veut porter leur fourrure.
Le sort des animaux qui vivent en liberté n'est pas meilleur. Ils sont traqués, chassés et abattus. Suite à la pêche, les poissons disparaissent de plus en plus des mers. L'homme revendique pour lui-même la totalité de l'espace de la planète, ce qui entraîne une diminution de l'espace de vie des animaux et la disparition de nombreuses espèces animales.
L'homme a servi également des animaux pour ses loisirs. Il exhibe certains d'entre eux dans des cirques ou des zoos. Les autres lui servent d'animaux dits domestiques ou de compagnie. Un grand nombre d'entre eux n'ont pas les conditions de vie correspondant à leur vraie nature. Ils sont rabaissés au rang de chiens de salon ou de chats de canapé. Les reptiles, eux, sont enfermés dans des terrariums, les oiseaux dans des cages et les poissons dans des aquariums. Jusqu'aux prochaines vacances, date cruciale à laquelle nombre d'entre eux sont tout simplement abandonnés. Ce ne sont là que quelques exemples des cruelles conséquences du fait que l'amour de Jésus pour les animaux ait été caché.
Autrefois, lorsque j'entendais le mot « animal » en relation avec le nom de Jésus, cela me rappelait toujours un tableau dans la maison de mes grands-parents qui représentait Jésus comme le bon berger au milieu d'un troupeau de brebis et portant un agneau dans ses bras. J'adorais ce tableau. Et pour l'enfant que j'étais, il était clair que Jésus était un ami des animaux et qu'il les protégeait. Au moment de l'adolescence, ce tableau m'est revenu à l'esprit et je me suis dit, si Jésus aimait et protégeait les animaux tels qu'il est toujours représenté sur les gravures, il n'a sûrement jamais tué un animal. Ou bien, chers téléspectateurs, chers amis, l'un d'entre vous a-t-il déjà vu une gravure représentant Jésus, un couteau à la main, en train d'égorger un agneau ou un autre animal? J'ai donc poursuivi ma réflexion. Jésus était pour moi un homme droit et juste qui n'exige rien de son prochain qu'il ne soit prêt à faire lui-même. Jamais donc il n'aurait chargé quelqu'un d'abattre un animal pour lui, pour le manger. J'en ai logiquement déduit que Jésus ne mangeait pas d'animaux, qu'il était végétarien. Je ne peux pas dire que cela m'ait décidé à devenir végétarienne, car à l'époque, en fait, je l'étais déjà.
Depuis que je m'engage pour les animaux, j'ai rencontré un grand nombre de personnes qui sont tout à fait étonnées et réjouies de voir des chrétiens s'impliquer pour les animaux. La plupart des gens n'ont pas connaissance de l'amour de Jésus envers toutes les créatures, car dans les Bibles éditées par les églises institutionnelles, on ne trouve que peu d'indications à ce sujet. On y trouve quand même le fait que Jésus vécut 40 jours dans le désert parmi les animaux sauvages. Il est également connu qu'il chassa hors du temple les marchands qui vendaient des animaux pour les sacrifices. Il libéra les animaux et dit: « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. »
Il y a en dehors de la Bible des écrits anciens dans lesquels on apprend plus de détails sur l'amour que Jésus portait aux animaux et qui se traduisait aussi dans son mode alimentaire. Dans un livre intitulé « La manière de vivre de Jésus et des premiers chrétiens », Carl Anders Scriven, théologien et spécialiste des religions, donne de nombreuses informations à ce sujet. Il cite par exemple ces paroles du Christ: « Malheureux, vous qui n'entendez pas l'animal battu crier, se lamenter et demander au Créateur la miséricorde. Et encore plus malheureux, celui dont se plaint l'animal dans ses cris de douleur. »
Et qui sait aujourd'hui que les premiers successeurs de Jésus étaient végétariens? Carl Anders Scriver en apporte de nombreuses preuves. Selon un écrit ancien, Pierre déclara lui-même qu'il vivait de pain et d'olives, auxquels il ajoutait assez rarement des légumes verts. Clément d'Alexandrie, un des pères de l'Église, dit à propos de Matthieu qu'il vivait de végétaux et ne touchait pas à la viande. Tout comme Matthias, qui, après la mort de Judas, fut accueilli dans le cercle des 12 apôtres. Selon le témoignage des écrivains du IIe siècle, les apôtres André, Philippe et Thomas, ainsi que les évangélistes Marc et Luc, étaient également tous végétariens. Et Jacob, frère de sang de Jésus, et l'un des premiers responsables de la commune des origines de Jérusalem, était lui aussi végétarien. Il est rapporté qu'il ne buvait ni vin, ni boisson troublant l'esprit, et ne mangeait pas de viande. Ce ne sont là que quelques extraits d'anciens écrits parmi tous ceux qui montrent qu'un grand nombre de premiers successeurs du Nazaréen étaient végétariens, voire même végétaliens, et que cette manière de vivre, empreinte de respect pour les animaux, trouve son origine dans les enseignements de Jésus de Nazareth.
Nous avons ici un écrit qu'on ne trouve pas dans la Bible et qui contient de nombreux passages témoignant de l'amour de Jésus pour les animaux, ainsi que du fait qu'il ne mangeait pas de viande. L'évangile de Jésus est un évangile apocryphe d'inspiration chrétienne et dont le contenu se recoupe avec un certain nombre de fragments de textes datant de l'époque du premier christianisme.
Nous aimerions lire maintenant quelques extraits de cet évangile qui ne se trouvent pas dans la Bible. Par exemple, ce passage décrivant comment Jésus libéra des animaux. Je cite: « Un jour, alors que Jésus avait fini de parler, un jeune homme vint à lui et lui donna des lapins et des pigeons vivants pour qu'il les mange avec ses disciples. Jésus regarda le jeune homme avec amour et lui dit: « Tu as un bon cœur et Dieu te donnera la lumière. Mais ne sais-tu pas qu'au commencement, Dieu donna à l'homme les fruits de la terre comme nourriture et en cela, Il ne le fit pas inférieur au singe, au bœuf, au cheval ou à la brebis. Pourquoi donc devrait-il tuer les créatures qui l'entourent pour manger leur chair et leur sang? Laissez donc les créatures de Dieu en liberté pour qu'elles se réjouissent en Dieu et ne rendent pas les hommes coupables. Et le jeune homme leur rendit la liberté. Et Jésus brisa leurs cages et leurs liens. Mais voici qu'ils craignirent d'être repris et ne voulurent pas s'éloigner de lui. Mais il leur parla pour qu'ils s'en aillent et ils obéirent à ses mots et s'éparpillèrent, remplis de joie.
Dans un autre passage, il est décrit comment Jésus apporte son aide à un cheval. Je lis. Un jour, le Seigneur quitta la ville et traversa les montagnes avec ses disciples. Ils arrivèrent sur une montagne dont les chemins étaient très escarpés et firent la rencontre d'un homme et de sa bête de somme. Mais le cheval était tombé à terre d'épuisement parce qu'il était surchargé. L'homme le battait à sang. Jésus vint vers lui et dit, « Fils de la cruauté, pourquoi frappes-tu ta bête? Ne vois-tu donc pas qu'elle est beaucoup trop faible pour la charge qu'elle doit porter? Ne sais-tu pas qu'elle souffre? » Mais l'homme lui répliqua, « De quoi t'occupes-tu? Je peux battre ma bête autant qu'il me plaît, car elle m'appartient, et je l'ai payée assez cher. Demande à ceux qui t'accompagnent et qui habitent près de chez moi, ils le savent aussi. » Et plusieurs disciples répondirent, « Oui, Seigneur, ce qu'il dit est vrai. » Nous étions là quand il l'a acheté. Et le Seigneur répondit, « Ne voyez-vous donc pas comme elle saigne? N'entendez-vous pas ses soupirs et ses plaintes? » Mais ils répondirent, « Non, Seigneur, nous n'entendons ni ses soupirs ni ses plaintes. » Le Seigneur devint triste et dit, « Vous êtes bien malheureux. C'est l'insensibilité de vos cœurs qui vous empêche d'entendre ses pleurs et ses suppliques vers son Créateur céleste. Trois fois plus malheureux encore sera celui contre lequel se dirigent ses cris et ses lamentations dans sa douleur. » Et il fit un pas et toucha le cheval. La bête se leva et ses blessures étaient guéries. Mais à l'homme, il dit ceci, va ton chemin et ne la bats plus jamais, si toi aussi tu espères un jour trouver pitié.
Un autre passage de l'évangile de Jésus montre qu'il considérait les animaux comme ses petits frères et sœurs. Je cite, Jésus arriva dans un village et vit un petit chat abandonné qui avait faim et qui miaulait vers lui. Il le souleva, l'enveloppa dans son vêtement et le laissa se reposer contre sa poitrine. Et en traversant le village, il donna à manger et à boire au chat. Celui-ci mangea et but et lui montra sa reconnaissance. Ensuite, il le donna à l'une de ses disciples, une veuve du nom de Lorenza, qui s'en occupa. Des gens du peuple dirent, « Cet homme s'occupe de tous les animaux. Sont-ils ses frères et sœurs pour qu'il les aime de la sorte ?» Et il leur dit, « En vérité, ces créatures sont vos frères et sœurs dans la grande famille de Dieu. Vos frères et sœurs qui ont de l'Éternel le même souffle de vie que vous. » Et quiconque s'occupe de l'une des plus petites de ces créatures et lui donne à manger et à boire dans sa détresse, celui-là me le fait à moi. Et celui qui permet consciemment que l'une d'entre elles soit dans le besoin et ne la protège pas si elle est maltraitée, permet que ce mal lui soit fait comme s'il m'était infligé. Car il vous sera fait dans la vie future, comme vous avez fait dans cette vie.
Liebe Zuschauer,
chers téléspectateurs, chers amis, je ne sais pas ce que vous ressentez. Pour ma part, lorsque j'ai entendu pour la première fois, il y a de nombreuses années, ces récits de la vie de Jésus qui témoignent de la façon dont il aimait les animaux et prenait soin d'eux, j'ai été profondément émue. C'était pour moi comme une libération. Lorsque j'étais petite, j'aimais déjà les animaux et je voyais comme une contradiction le fait que, d'une part, on aime les animaux et, d'autre part, je devais entendre dire qu'il faut absolument manger de la viande, que les animaux sont là pour ça, etc. Peut-être. Connaissez-vous aussi cette situation? Alors lorsque j'ai entendu ces récits sur Jésus et les animaux, je me suis trouvée devant une grande interrogation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu connaissance de cela plus tôt? Et pourquoi si peu de gens en ont connaissance? Depuis des siècles, les animaux sont maltraités et abattus. Que se serait-il passé si l'humanité avait eu depuis longtemps connaissance de l'amour de Jésus pour les animaux? On peut se demander pourquoi on n'en parle pas dans les Bibles des églises institutionnelles.
La raison en est que les quatre évangiles de la Bible, tels qu'ils sont connus généralement aujourd'hui, ne sont pas la pure parole de Dieu donnée par les cieux. Ils n'ont pas été rédigés par Jésus lui-même et probablement pas non plus par ses disciples, mais environ un demi-siècle après sa mort. Le choix des évangiles qui seront ultérieurement introduits dans la Bible et qui s'est porté sur les plus courants parmi les nombreux évangiles existants à l'époque n'a été fixé qu'entre le milieu et la fin du IIe siècle. Ce sont les textes que nous connaissons aujourd'hui. Il en existe cependant de nombreux que nous ne connaissons pas. Quant aux premiers docteurs de l'Église, ils disposaient apparemment d'autres sources, car plusieurs d'entre eux plaidèrent clairement en faveur d'une alimentation non carnée. Parmi eux, Jérôme, dont l'une des tâches principales fut la traduction de la Bible et que l'Église vénère aujourd'hui comme un saint et père de l'Église.
Et voici la conclusion que tira Jérôme. La consommation de chair animale était inconnue jusqu'au déluge. Ce n'est que depuis le déluge que l'on nous a rempli la bouche des fibres et du jus puant de la viande. Jésus-Christ, qui est apparu alors que les temps étaient accomplis, a relié le commencement et la fin, de sorte qu'il ne nous est plus permis maintenant de consommer de la chair animale. Il semble que Jérôme était non seulement végétarien, mais aussi un ami des animaux, car il est dit qu'il aurait enlevé une écharde de la patte d'un lion. Et le lion s'attacha à lui et fut son fidèle compagnon.
Tout comme Jérôme, d'autres pères de l'Église s'exprimèrent en faveur du végétarisme. Parmi eux, Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, qui, par exemple, à la fin du IVe siècle, parle d'un groupe de chrétiens qui vivaient d'une manière exemplaire, je cite, « Aucune goutte de sang n'est versée par eux. Aucun morceau de viande n'est haché ou découpé. Chez eux, on ne sent pas la terrible odeur des repas à base de viande. On n'y entend ni bruit ni vacarme. Ils se nourrissent uniquement du pain qu'ils gagnent avec leur travail et d'eau qui leur est offerte par une source pure. S'ils désirent un repas abondant, leurs morceaux de choix sont constitués de fruits et en les mangeant, ils éprouvent un plaisir plus grand que d'être assis à une table bien pourvue. »
Un contemporain de Chrysostome, Grégoire de Nazianze, docteur de l'Église né en Cappadoce et qui fut l'un des instructeurs de Jérôme, dit « La gloutonnerie de mets à base de viande est une injustice abominable et je désire que vous aspiriez par-dessus tout aux choses qui sont une nourriture éternelle pour votre âme. »
Et aussi Basile le Grand, une des figures importantes de l'Église, écrivit à la même époque « Le corps appesanti de mets carnés devient affligé de maladies. Un mode de vie modéré le rend plus sain et plus fort et arrache les racines du mal. Les exhalations des mets à base de viande recouvrent la lumière de l'esprit. On peut difficilement aimer la vertu si l'on prend plaisir à manger de la viande et des repas opulents.
Voilà des paroles on ne peut plus claires. Imaginons ce qui se passerait si les responsables de l'Église actuelle les prononçaient du haut de leur chair. Pensons à toute la souffrance qui aurait pu être épargnée aux animaux au cours des siècles si les Églises avaient appelé à un mode d'alimentation végétarienne tels que le pratiquaient certains des premiers chrétiens. On est en droit de penser qu'il n'y aurait peut-être pas de catastrophe climatique. La terre serait en bonne santé et à même de nourrir tous les hommes. Une question s'impose alors, pourquoi ce mode d'alimentation végétarienne des successeurs de Jésus est-il pratiquement inconnu aujourd'hui?
Plusieurs facteurs entrent sûrement ici en ligne de compte. D'une part, les premiers chrétiens vivaient en petits groupes disséminés et assez éloignés les uns des autres. Dans ces jeunes communes, et tout particulièrement dans celles où ne vivait aucun témoin oculaire de Jésus, se réintroduisirent avec le temps des éléments de cultes anciens. Parmi ces éléments, les structures hiérarchiques, les rites, les sacrifices familiers aux Juifs comme aux Romains de cette époque. La tradition d'une alimentation carnée semble aussi s'être imposée par cette voie. Probablement qu'il en était à l'époque comme il en est aujourd'hui. Les gens entendaient ce qu'ils voulaient bien entendre. Aujourd'hui encore, la majorité des mangeurs de viande appartenant à l'Église invoquent ces paroles de Paul, je cite, vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché de la viande, sans avoir à poser des questions par motif de conscience. Alors qu'en fait, dans cette phrase, Paul ne fait pas allusion au mode alimentaire, mais au fait qu'il n'est pas important de savoir en l'honneur de qui la viande a été sacrifiée. N'oublions pas non plus qu'il s'agit là uniquement de l'opinion de Paul, qui n'était pas même un contemporain de Jésus, et non des paroles de Jésus de Nazareth lui-même. Il faut également savoir que Paul écrit lui-même, juste avant, cette phrase, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. »
Est-ce que cela ne signifie pas que pour Paul, même s'il n'y avait pas d'interdiction de manger de la viande, le fait d'en manger était loin d'être utile ou édifiant? Cependant, la théologie n'en a pas fait de cas. Elle retire une demi-phrase de son contexte d'origine et en abuse jusqu'à aujourd'hui comme légitimation d'une consommation illimitée de viande. Ce faisant, elle omet de mentionner que ce même Paul a également enseigné qu'il cesserait de manger de la viande si cela gênait quelqu'un dans la commune. Parmi les premiers chrétiens, un certain nombre suivit fidèlement les traces de Jésus. Comme lui, ils protégeaient les animaux. Ils étaient pacifistes et objecteurs de conscience. C'est la raison pour laquelle dans les premières communes des origines n'étaient acceptés ni soldats ni chasseurs. Cependant, la majorité en voulait autrement, ce qu'elle finit par obtenir. Ce qui fut probablement également le cas concernant le choix des textes qui composèrent la Bible. Certains des successeurs fidèles et conséquents de Jésus furent persécutés et éradiqués, ou tout au moins réduits au silence. Ainsi, progressivement, se perdit l'éthique et la morale élevée qu'enseigna Jésus. Avec le temps, s'installa une religion extérieure, comprenant des structures hiérarchiques, des rites et des cultes très éloignés des idéaux d'origine.
Et l'empereur Constantin se servit de cette nouvelle religion qu'il éleva au rang de religion d'État de l'Empire romain. À partir de l'an 313, il la privilégia massivement et en 326, il promulgua une loi contre les hérétiques au moyen de laquelle il fit persécuter les mouvements du christianisme des origines. Il est écrit que Constantin faisait couler du plomb dans la gorge de ceux qui prêchaient, à tort selon lui, le renoncement à l'alcool et le végétarisme. Dès lors, celui qui affirmait ouvertement faire partie de la minorité végétarienne pouvait le payer de sa vie. Cela explique pourquoi, aujourd'hui, on sait si peu de choses sur l'amour que Jésus avait pour les animaux et sur le végétarisme. Les minorités se séparèrent de l'Église d'État et furent alors déclarées hérétiques. En 385, l'Espagnol Priscillien fut le premier chrétien à être exécuté par une autorité chrétienne pour hérésie. Il enseignait, entre autres, le respect de la création et le renoncement à la nourriture carnée.
L'Église commença alors à éliminer de plus en plus toutes les connaissances concernant l'amour de Jésus pour les animaux, ainsi que tous ceux qui s'y tenaient. Parallèlement furent rédigés des enseignements théologiques contre les animaux. Déjà au IVe et au Ve siècle, Augustin, qui d'ailleurs, rappelons-le, est le théologien préféré de Luther et de l'ancien pape Ratzinger, montre toute la froideur et la brutalité dont il est capable envers les animaux lorsqu'il écrit « En effet, au mouvement et au cri de ces animaux, nous comprenons que la mort leur est douloureuse, et cependant l'homme méprise cette douleur, parce qu'aucune relation ne l'unit à la bête, par la raison que celle-ci n'a point d'âme raisonnable. »
Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, reconnu aujourd'hui encore comme le plus important docteur de l'Église catholique, précise en disant, je cite, « Nous croyons que seul l'homme a une âme substantielle, c'est-à-dire porteuse d'une vie intrinsèque, tandis que l'âme des animaux meurt avec leur corps. » Voilà pour la citation de Thomas d'Aquin. De telles condamnations, issues de la bouche de docteurs de l'Église, et que cette dernière continue d'encenser aujourd'hui encore, ont jeté les bases du comportement cruel des hommes envers les animaux et de la persécution de tous ceux qui s'engagent pour eux.
Chers téléspectateurs, chers amis, le mot « persécution » est à prendre ici au véritable sens du terme. Priscillien fut le premier végétarien exécuté comme hérétique pour cette raison. En l'an 561, lors du concile de Braga au Portugal, un anathème, c'est-à-dire une sentence de malédiction conduisant entre autres à l'excommunication, fut prononcé contre tous ceux qui, comme Priscillien, considéraient les mets carnés comme impurs et refuseraient leur consommation. Je cite, « Si quelqu'un regarde comme impurs les viandes que Dieu a créées pour notre nourriture et qu'aussi il n'ose y goûter, qu'il soit anathème. » Il faut savoir que l'anathème papal était une sorte de condamnation à mort, puisque l'excommunié était alors exclu de la société. Il perdait tous ses droits et pouvait être tué en toute impunité.
L'anathème papal visait tout particulièrement les manichéens qui se réclamaient du christianisme des origines et déclaraient, je cite, « Puisque l'homme doit manger pour pouvoir vivre sur la terre, il est préférable qu'il ait une nourriture riche en particules lumineuses, comme les fruits aux couleurs lumineuses, les melons, les courges et les concombres. » La viande et les vins sont, par contre, à éviter strictement. Les manichéens furent persécutés et assassinés comme tous ceux qui osèrent mettre en pratique l'enseignement de Jésus de Nazareth.
Au Moyen-Âge, l'Inquisition menée par l'Église condamna à la pendaison les personnes qui refusaient de tuer des animaux. Pour apporter la preuve qu'elles étaient bien de foi catholique romaine, les personnes suspectes devaient par exemple tuer un animal en public. Le philosophe Paul Comte de Hunsbruch écrit ceci. Une conférence des évêques tenue en 1051 à Goslar en Allemagne condamna à mort plusieurs personnes en raison de leur hérésie parce qu'elles avaient refusé de tuer des poules. Ne pas tuer d'animaux faisait partie de la foi des cathares. Et dans un écrit du XIIIe siècle, on peut lire également que dans le sud de la France, deux femmes furent arrêtées et exécutées pour hérésie parce qu'elles refusaient de tuer une poule.
Et aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Église a beau organiser des messes pour les animaux et des journées sur le thème « l'homme et l'animal », rien n'a changé dans son attitude de base méprisante envers les animaux, dont elle continue à tolérer aujourd'hui encore l'abus et l'assassinat. Et savez-vous, chers amis, le plus macabre dans tout cela, c'est le fait que les fêtes chrétiennes, Noël et Pâques, sont devenues les plus grandes boucheries de l'année. Jésus de Nazareth est venu au monde dans une étable, parmi les animaux qui ont partagé avec lui leur crèche et lui ont offert leur chaleur. En remerciement, à Noël, ils sont plus que jamais massacrés.
Et à Pâques, il n'en est pas autrement. Jésus dut mourir crucifié, c'est-à-dire dans d'indicibles souffrances, parce que les hommes ne l'avaient pas accepté. Lui et son enseignement révolutionnaire. Il mourut à peu près à la même période de l'année que les agneaux innocents qui, à l'époque, étaient sacrifiés lors de la fête de Pessa. Et qu'en est-il aujourd'hui? Les chrétiens d'Église sacrifient aujourd'hui encore d'innombrables animaux innocents pour les plaisirs du palais. C'est un abus flagrant du nom de Jésus, du Christ, lui qui aimait et défendait les animaux.
Mais qui sait cela aujourd'hui? Et c'est bien là le problème. Pendant des siècles, l'amour de Jésus pour les animaux a été caché aux hommes. Pour sa part, le pape, qui devrait servir d'exemple aux fidèles catholiques et à qui ces derniers doivent obéissance, se fait livrer viande et charcuterie directement par la boucherie privée du Vatican.
Apparemment, certaines églises semblent s'orienter aujourd'hui encore sur les anciens cultes de sacrifices animaux. En Allemagne, à Hildesheim, par exemple, lors d'une fête des artisans tenue en plein cœur de la cathédrale, l'évêché rapporte fièrement à la presse qu'un cochon de lait se roulait dans son propre jus. Et il ne fut pas le seul. Pas étonnant que jusqu'à aujourd'hui, la corporation des charcutiers porte sur ses armoiries l'agneau de Pâques avec la bannière de la résurrection. Un symbole du Christ. Et cela avec la légitimation de l'Église. À nouveau, une insulte à Jésus de Nazareth qui aimait les animaux.
Si je peux ajouter quelque chose, l'Église catholique n'est pas la seule à agir ainsi, car lors des messes de Saint-Hubert, les prêtres des confessions catholiques et protestantes bénissent les chasseurs. La chasse et les animaux tués. Et le sommet, c'est que les églises ne se contentent pas de bénir la terreur et la guerre menée contre les animaux. Il n'est pas rare que des prêtres soient également eux-mêmes chasseurs.
Les prêtres y vont même de leur bénédiction lors de l'inauguration de centres de vivisection. En bon serviteur de Mammon, l'église protestante de Hanovre, toujours en Allemagne, a par exemple vendu un terrain à un trust pharmaceutique pour qu'il construise un centre de recherche dans lequel est pratiquée la vivisection. Et fin 2011, le pape de l'époque, Joseph Ratzinger, a nommé au poste de consulteur du Conseil pontifical de la culture Wolf Joachim Singer, professeur en médecine, fervent idéologue de l'expérimentation animale, devenu célèbre pour ses expériences sur les singes. Cela montre peut-être le manque de culture du pape, mais cela n'a, en tout cas, rien à voir avec l'éthique et la morale élevée de la culture noble de Jésus de Nazareth.
Le mépris des animaux est inscrit noir sur blanc aujourd'hui encore dans les dogmes de l'Église. Les formulations méprisant la vie que l'on trouve dans le catéchisme catholique édité en 1992, en grande partie sous la responsabilité de Joseph Ratzinger, qui était à l'époque cardinal, en disent long. Selon ce catéchisme, les animaux seraient sous la domination accordée par le Créateur à l'homme, raison pour laquelle il est, selon l'Église vaticane, légitime de se servir des animaux pour la nourriture et la confection des vêtements. Elle estime aussi que les expérimentations médicales et scientifiques sur les animaux sont des pratiques moralement acceptables, pourvu qu'elles restent dans des limites raisonnables.
En 1991, lors d'un échange sur le thème de, je cite, « la responsabilité de l'homme envers l'animal qui est aussi une créature de Dieu », le Conseil scientifique des délégués aux questions environnementales de l'Église protestante d'Allemagne a dévoilé sa position hostile envers les animaux en déclarant à peu près en ces termes. Concernant la dignité inaliénable et le droit de chacun à la vie sans restriction, il ne peut être question que de l'être humain. Fin de citation. Les bouchers, les chasseurs et les éleveurs industriels reçoivent eux aussi la bénédiction de l'Église protestante. Le Conseil poursuit sa déclaration à ce sujet en disant « Lorsque des personnes vivent du fait de tuer la vie animale, c'est le signe, dans le langage de la théologie, d'un monde qui a chuté, mais pas en soi d'une faute individuelle ou d'une charge de la conscience. Fin de citation.
Ces déclarations montrent clairement que les Églises sont contre les animaux, aujourd'hui encore. Elles sont responsables du fait que l'amour de Jésus pour les animaux ait été occulté et les belles paroles prononcées de temps à autre devant les micros des médias par quelques représentants de l'Église n'y changent rien. Comme par exemple, il faut protéger la création. Ou bien, quelqu'un d'entre vous a-t-il entendu les responsables de l'Église demander de stopper immédiatement l'élevage industriel et d'arrêter progressivement de manger de la viande? Quelqu'un a-t-il entendu dire que les prêtres deviennent peu à peu végétariens? Où a-t-on entendu un appel adressé à l'industrie pour qu'elle renonce immédiatement à la vivisection? S'est-on adressé aux chasseurs pour qu'ils déposent les armes et laissent les animaux des campagnes vivre en paix?
Nous avons cité au cours de notre émission quelques sources historiques témoignant du fait que Jésus aimait les animaux et qu'il était végétarien. Aujourd'hui, nous ne sommes cependant plus dépendants de ces découvertes scientifiques. Grâce à une toute autre source, nous apprenons comment Jésus a véritablement vécu, ce qu'il dit aux hommes de l'époque et ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Cette source est la sagesse divine qui jaillit à travers Gabriel, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque. À travers elle, le monde divin se révèle depuis plus de 37 ans. Au cours de cette période, de nombreux livres et brochures issus de la sagesse divine ont été édités, comme par exemple les deux brochures intitulées « Les animaux implorent grâce, le prophète accuse » et « L'assassinat de l'animal est la mort de l'homme », traduites en 14 langues et diffusées à des centaines de milliers d'exemplaires.
L'œuvre centrale nous permettant de prendre connaissance de la signification de la vie de Jésus dans une dimension inconnue jusqu'alors est la révélation monumentale du Christ intitulée « Ceci est ma parole ». Il s'agit d'une œuvre qui va bien au-delà du contenu de la Bible. En se basant sur l'Évangile de Jésus, dont nous avons cité auparavant quelques extraits, le Christ a révélé à travers Gabriel de nombreux détails de sa vie. Dans cette révélation, il ressort également clairement que le Christ n'est pas seulement venu pour les hommes, mais également pour libérer les animaux de leurs souffrances.
Nous aimerions lire deux extraits qui démontrent clairement cela. Je cite, « En tant que Jésus de Nazareth, je me suis adressé à beaucoup d'hommes pour leur parler de la loi de la vie, ainsi que des animaux qui, comme eux, ressentent douleur, souffrance et joie. De même que l'homme devrait être pour son prochain et non contre lui, il devrait être également pour les animaux et en porter la responsabilité parce qu'ils sont au service de l'homme. J'ai continuellement enseigné aux hommes que les animaux sont aussi des créatures de Dieu, que l'homme ne devrait pas mépriser, mais aimer. »
Dans un autre passage de cette immense révélation du Christ, on peut lire « Beaucoup d'animaux absorbent les vibrations qui émanent de l'homme et adoptent alors un comportement similaire. Dès lors que l'homme se transforme et s'oriente sur la loi divine, les animaux retrouvent confiance en lui et deviennent ses amis. »
Chers amis, Jésus de Nazareth aimait les animaux et il a enseigné aux hommes d'appliquer la règle d'or également dans leur comportement envers eux. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres, pas non plus à un animal ou à un végétal. Cette vérité a été, comme tant d'autres choses, cachée par les institutions ecclésiastique. Elle a été détournée et souvent inversée en son contraire. Si vous souhaitez apprendre la vérité sur la vie de Jésus de Nazareth concernant son attitude envers les animaux, mais aussi la signification véritable de sa vie et de son enseignement, nous vous recommandons vivement la grande révélation du Christ « Ceci est ma parole ». C'est sur une phrase tirée de cette grande révélation que nous allons conclure notre émission d'aujourd'hui. Le Christ dit, je cite, « Ce que l'homme fait aux animaux, il se l'inflige à lui-même, car la vie, Dieu, est dans toutes les formes de vie. Dieu n'a pas donné aux hommes le droit de se placer au-dessus de l'animal. Il leur a donné le commandement d'aimer la vie, quelle que soit la forme sous laquelle elle se manifeste. » Chers téléspectateurs, chers amis, c'est sur ces paroles que nous prenons congé de vous pour aujourd'hui. Une chaleureuse salutation en Dieu. Au revoir et à bientôt.